West says, yes, well, the West has come for the West.
Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence. Aujourd'hui, mercredi 2 novembre 2016, il est 14h04, oh mon dieu quel retard. Ouais mais toujours des problèmes techniques, il est possible que l'émission ne soit pas enregistrée tout de suite, enfin du moins elle se trouvera sur le blog un jour à venir. Quelle émission est-ce aujourd'hui? La numéro 109, Christophe Rollin au micro, Gérald est ici, Isa est presque là et nous avons une invitée aujourd'hui, déjà venue mais elle n'était pas la vedette de l'émission, ce n'était pas l'invitée principale, Geneviève Garcia Gallo, c'est comme ça qu'on peut trouver son nom sur son site, les 3G. Donc Geneviève Garcia Gallo, déjà venue en février-mars dernier avec Didier Numadrose, ici aujourd'hui, et seule au micro pour parler d'elle, pour parler de l'exposition En Déshérence qui commence ce mercredi 2 novembre. Là, maintenant, ça commence et ça continue jusqu'au samedi 26 novembre. Il y a un vernissage d'ailleurs ce vendredi 4 novembre à 18h, je crois, jusqu'à 20h. Et c'est à la galerie Jean-Louis Mandon, aux 3 rue Vaubecourt. Geneviève est là avec nous pour parler de cette émission, enfin pour parler d'elle, pour parler de cette exposition En Déshérence. Je pense que Gérald donnera une définition du terme tout à l'heure. Donc elle va parler tout d'abord d'elle-même aussi et puis de cette exposition. Nous aurons des annonces aussi à faire en fin d'émission et voilà. Nous commençons par écouter un peu de musique. C'est Geneviève qui a programmé la chose. Salut Isa, elle a programmé Couleur Jaune, extrait de l'album Valse 333 de Sago. C'est intéressant, Valse 333, et c'est proposé par GGG. Vous nous écoutez sur radiocanu.org si c'est sur internet, ou bien si c'est à Lyon, c'est encore plus simple, c'est le 102.2 de la bande FM.
Ces hommes à tête bleue, servant des murs, en huis clos dans les rêves, ils jobent dans l'ombre des fenêtres, au bout des doigts des étincelles. Ces hommes à tête bleue, servant d'images.
bien, on aura écouté jusqu'aux dernières notes de ce titre « Couleur jaune », extrait de l'album « Valse 333 » de Sago. Bonjour.
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 Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde. Gérald, je t'en prie, fais donc les présentations.
Alors, bonjour Isa.
Bonjour Christophe.
Bonjour Geneviève. Geneviève Garcia-Gallo, que nous avions reçue ici même avec Didier Numa-Drouze, mais elle avait moins parlé. Et leur petite fille qui avait pris la parole, qui avait 7 ans. C'était très rigolo. Et voilà, c'était à l'occasion d'expo de Didier à la galerie Jean-Louis Mandon. Et cette fois,
le mercredi 3 février.
C'est Geneviève Garcia-Gallo qui expose dès cet après-midi, si vous voulez aller tuer le temps, parce qu'il ne fait pas très beau, pour aller voir de la belle peinture. Allez, rue Vaubecourt, rendez-vous à la galerie Jean-Louis Mandon.
C'est à quel endroit exactement?
Au 3 rue Vaubecourt, la rue de la fac Cato de Biocop, là-bas, vous voyez dans le quartier.
C'est entre la Saône et la rue Victor Hugo. C'est une rue qui est parallèle à la Saône, pas loin de Bellecour, quoi. On passe devant deux citres et c'est tout droit.
Voilà.
Pas très loin.
Alors, monsieur Mandon ne nous a pas fait l'honneur de sa présence.
Et non,
il était pourtant invité.
Mais bon, on en a discuté. Je peux présenter sa galerie. Ça fait une dizaine d'années qu'il tient la galerie rue Vaubecourt. Et voilà, il fait vraiment bien sa place parmi les galeries de Lyon. C'est quelqu'un de passionné et de très agréable.
Et qui expose exclusivement ou surtout de la peinture, il me semble.
Pratiquement. Il y a quand même trois ou quatre sculpteurs aussi avec les peintres.
Il y a quelques galeries qui sont en permanence dans cette exposée régulièrement.
Ah oui. Il fait une expo tous les mois. Il y a une expo différente depuis une dizaine d'années.
Bon, c'est très bien. Nous commençons par de la géographie, à savoir cette galerie de Jean-Louis Mandon. Mais il faudrait tout de même de l'histoire plutôt. Geneviève Garcia-Gallo, vous devez nous indiquer qui vous êtes, enfin du moins votre parcours qui vous a mené depuis du Maroc jusqu'à Lyon, en passant par... je crois que ça a été directement Lyon. Ben, d'ailleurs, enfin voilà, première question, que faisiez-vous au Maroc et à présent, que faites-vous à Lyon depuis une quarantaine d'années, un peu moins je crois?
J'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 17 ans, je suis née à Rabat. Et j'ai eu la chance de rencontrer, quand j'avais 13-14 ans, un professeur de dessin extraordinaire qui arrivait de Paris et qui m'avait repéré et qui m'a vraiment encouragée à poursuivre au niveau de la peinture. Donc, dès que je suis arrivée en France, j'ai passé des concours et puis j'ai fait les arts appliqués à Lyon. Pendant 4 ans, ça a été un délice pour moi de découvrir Lyon. Je trouvais que c'était une ville extraordinaire. Et pour la première fois de ma vie, je voyais des musées, des galeries, et j'allais tous les jours. C'était un émerveillement. Et à la suite de ça, après avoir fini mes études, j'ai eu deux petites filles. Et puis l'école d'art m'a contactée pour être professeur. Donc mes professeurs sont devenus mes collègues et j'ai enseigné de nombreuses années aux arts appliqués. Et après j'ai fait le choix de donner des cours du soir aux beaux-arts pour avoir le temps de peindre la journée.
L'école d'art appliqués, c'est à côté, c'est la Martinière?
Non, les arts appliqués se trouvaient à Vez, à côté de l'île Barbe, et puis après on a fusionné avec les Beaux-Arts aux Subsistances.
Peut-être que c'est un peu forcé la chose, mais y aurait-il des points communs entre Rabat et Lyon? Est-ce que vous en trouvez, ou au contraire, est-ce qu'il n'y a que des différences?
La lumière. Non, la lumière à Lyon, mais il ne faut pas exagérer.
Non.
La météo non plus, non, il n'y a pas de...
Non.
Les musées, il n'y avait pas de musée à l'époque. Il n'y avait pas de musée à Rabat.
Maintenant, il y a un très très beau musée. Maintenant, mais à l'époque, non. Il n'y avait pas de galerie, il n'y avait pas de musée. Non, ça a été vraiment la découverte pour moi, une fois arrivée en France.
Mais le
très beau endroit,
maintenant,
Rabat.
Il y a beaucoup de galeries à Marrakech, à Essaouira. Il y a un musée extraordinaire où il y a une très grande expo, il n'y a pas longtemps, de Giacometti.
Et puis il y a beaucoup d'artistes contemporains marocains.
Voilà. Ça a énormément changé. En 40 ans, ça a beaucoup changé au niveau de l'art.
Votre goût pour la peinture, pour le dessin, je pense, on peut dire aussi, est-il né donc en arrivant en France ou auparavant?
Non,
il est quand même auparavant.
Petite, je dessinais tout le temps.
Voilà.
Et à 13-14 ans, voilà, j'ai eu cette chance inouïe. C'est, voilà, ça fait partie d'une très belle rencontre de ma vie. Et ce professeur de peinture que j'ai eu pendant, je ne sais plus, 2 ou 3 ans, m'a suivi et puis
m'a poussé lui-même artiste
à peindre. Comment
avoir, et son nom, alors
il était, c'était aussi Madame Clavel. Ouais, je me souviens bien.
Madame Clavel.
Madame Clavel, qui était une Parisienne.
Les avez-vous encore, ces dessins de l'âge, réalisés non. à l'âge de 4-5 ans? Non, plus rien.
Mais non, j'ai plus rien.
Vous rappelez-vous de certains, vous rappelez-vous certains de ces dessins? Est-ce que vous vous souvenez de, je ne sais pas, de quelques motifs figuratifs?
Oui, c'était du figuratif, beaucoup de petits personnages, beaucoup de femmes en djellaba, de tous les gens que je voyais, j'avais envie de les dessiner, quoi. Mais c'était des
petits dessins. Avec beaucoup de couleurs déjà?
Oui, il y avait des couleurs, ouais. C'était beau, ouais, je dessinais l'humain. L'humain et les paysages aussi.
Isa, oui,
Pourquoi plutôt le dessin que, par exemple, s'intéresser plutôt à la photo? Parce que moi, ça m'intéresse assez de savoir pourquoi les peintres sont plus attirés par le dessin manuel que plutôt par la photo. Qu'est-ce que feriez-vous comme différence entre le dessin, la photo.
Et d'autant plus que là, on en parlera tout à l'heure, Gérald, en déshérence, il y a des œuvres. Mince, est-ce une sorte de, est-ce que ça peut être une forme de critique ou je ne sais quoi qui touche à la photo? Enfin, il y a un réalisme.
Et donc alors puissant.
Cette question d'Isa, est-ce que
on reviendra sur la question du réalisme.
Est-ce que la photo vous intéresse? Vous en faites ou
la photo m'intéresse énormément parce qu'en fait, dans mes déambulations, dans mes promenades, dans la forêt, parce qu'on a une petite maison de campagne, et puis avant ça, j'avais fait une grosse expo qui s'appelait l'appel de la forêt. Donc je me baladais, je prenais des photos, je faisais des petits croquis et puis hop, je rentrais à l'atelier et puis d'après ces photos, je faisais mes peintures. Mais c'était juste tout avec heureux. Mon téléphone portable, c'était juste pour avoir une trace
rapide,
simplement rapide.
Pour gagner
après,
du temps.
J'interprétais, je me sentais complètement libre de rajouter des arbres, des objets.
Réinterpréter totalement. Comme faisaient les peintres au 19e, comme Delacroix faisait avec ses aquarelles au Maroc, justement. Je pense à Delacroix avec les...
Mais la photo, j'apprécie énormément. J'aime beaucoup aller voir des expos de photos. De toute façon, j'aime... j'essaye d'aller 2 ou 3 fois par semaine voir des expos, ce qui se passe à Lyon. Voilà. Après-demain, c'est mon vernissage. Mais demain, je vais voir une expo de Luco Espaler, qui est un ami et qui va exposer à l'œil et coup.
Et ben voilà.
Donc, j'essaye de voir le maximum d'expositions parce que ça m'intéresse et puis j'ai envie de voir ce qui se passe à Lyon, et quand il y a des amis qui font des vernissages, je trouve que c'est important d'être présent pour se soutenir entre artistes et
voilà. Peintre, parce que la peinture, c'est pas la photo en fait.
Ouais.
Parce que je sais pas, le peintre fait émerger.
Entre artistes, c'est très vaste. Hein. On a pas mal de.
Finalement, n'empêche pas l'autre, il y a beaucoup de peintres photographes.
Photographes, d'amis sculpteurs, de graveurs, de. Voilà.
Oui, c'est une réponse.
La photographie n'a pas tué la peinture, contrairement à ce qu'on avait programmé depuis très très longtemps.
Oui, moi, il me
semble loin de là, c'est plutôt des outils complémentaires, en fait.
Oui,
et des formes d'expression artistique, voilà.
Oui, mais ce que Lisa peut sembler assez juste, parce que, enfin, à défaut de dans le passé, projetons-nous un petit peu d'ici quelques années. Est-ce que la peinture, Gérald, pensez-vous, est-ce qu'elle pourrait disparaître? Enfin, disparaître au moins.
Ça fait des années qu'on avait dit ça.
Est-ce que ça pourrait se réduire?
Ça fait des années, ça fait. Plus de 60 ans qu'on dit que la peinture est morte, qu'il faut poser les pinceaux et puis.
Et l'art peut-être aussi.
Ou évoluer.
Devient poésie et philosophie.
Voilà.
Une peinture informatique ou une peinture. Non, j'ai changé un peu de média, de support, changé de choses. Non, en fait, c'est un peu.
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, chacun son cheminement et.
Ben, tout.
Et est-ce que vous trouvez que la peinture commence à devenir un art qui est un peu réservé à une certaine élite qui a peut-être moins de monde qui s'intéresse à la peinture qu'avant? C'est quelque chose d'un petit peu cloisonné.
Cloisonné, non, je trouve pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'amateurs. En tout cas, bon, moi, je donne des cours aussi de peinture parce que j'ai besoin de transmettre aussi toutes mes techniques, tout ce que j'aime. Et c'est Et j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de demandes. Les gens sont vraiment intéressés parce que c'est un moment de concentration, d'isolement, et puis on est bien quoi devant sa toile. C'est un moment de méditation. Donc j'ai l'impression que dans ce monde très très rapide où tout est en accélération, le fait de se poser seul, de se concentrer devant une toile blanche, mais c'est un véritable bonheur.
Vous ne trouvez pas que la photo est un peu plus voilà, mais représentatif de l'image que la peinture, et qu'on arrive plus facilement à s'identifier à une photo qu'à une peinture?
Pourquoi pas, après,
que ça demande peut-être moins d'efforts de réflexion.
Ouais, bon, peut-être. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont des appareils hyper sophistiqués et qui prennent des photos. Il y a de plus en plus de gens qui... Parce qu'on a l'impression... Parce qu'il y a les vrais photographes, mais...
Les milliards de données qui circulent sur les réseaux, d'ailleurs. Il y a des œuvres dedans.
Il y a plein de gens qui se pensent photographes parce que maintenant, même avec une tablette, on peut prendre des photos, mais extraordinaires, les recadrer, changer la couleur... Donc voilà. Alors peut-être que la photo est plus abordable et...
C'est un art moyen, comme disait Bourdieu déjà il y a 50 ans.
Pour moi, c'est pas spécialement... Non, je pense pas ça.
Enfin, c'est peut-être un art qu'on peut plus facilement s'approprier
dans le sens accessible à tous.
La peinture, voilà, qui est forcément
c'est plus accessible. Voilà. Enfin, il faut avoir le...
On peut pas s'improviser peintre, quoi. Enfin, si on...
Mais c'est photographe non plus, hein, à moins de faire des selfies débiles.
Moi, ce que je sera toujours un peu mieux, voilà, représenté au niveau d'une photo que de peindre. Enfin, si on n'est pas peintre, on va faire un dessin qui va être, limite catastrophique, alors qu'une photo, on peut l'arranger. Enfin,
la peinture se nourrit de la photographie et vice versa. La photographie.
Absolument. Non. Ouais. Mais là, je te rejoins bien, Isa.
Beaucoup plus accessible, je pense.
Oui.
Il y a un mystère dans la peinture qu'il n'y a pas dans la photographie.
Ouais, c'est ça.
Enfin, il y a un autre mystère dans la photographie, mais c'est pas le même.
Ouais, parce que dans une peinture, il y a des imprévus. Et tu peux tirer parti du hasard, de ce qui t'arrive, et puis le ramener à toi. Et puis ta toile, justement, elle bouge, quoi, elle évolue, elle se transforme.
Le temps, le rapport au temps et la matière n'est pas le même.
Je parlais de réinterprétation par rapport à la trace de la photo.
Et on cherche peut-être plus facilement l'accident dans une peinture que dans une photo.
Exactement. Bon, après, moi, je ne suis pas suffisamment bonne au niveau de la technique. Je ne suis pas photographe. Donc, je pense qu'aussi, ceux qui maîtrisent complètement la photo peuvent tirer aussi des imprévus de ce qui arrive. Et puis, voilà.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans le domaine où là au moins, je pense, Geneviève, vous devez être spécialiste, c'est cette exposition En déshérence. On pourrait essayer ça, Gérald, un petit parcours de cette exposition grâce au catalogue. On va te le montrer, Isa, tu vas voir certains des tableaux. On va parler, promis, auditeur, on va parler technique, on va parler format, on va parler de tout un tas de choses.
Qu'est-ce que ça raconte? Parce que ça raconte quand même pas mal de choses.
Et en déshérence.
Isa parlait d'identification, moi je dirais plutôt de projection, là. Voilà, l'intérêt de la peinture, c'est se projeter, que ce soit un espace, le lieu dans la peinture, le paysage ou quoi que ce soit. La peinture est habitable, il me semble. Jusqu'à la photographie, parce qu'elle est moins immédiate.
Mais nous ferons cela une fois que nous aurons écouté Feu Chatterton avec le titre Boeing. Un voyage un peu, c'est ça, Geneviève, vous nous emmenez en avion. Enfin voilà, on va essayer peut-être de décoller avant d'entrer plus précisément dans cette œuvre. Boeing de Feu Chatterton, il est 14h22 et c'est très bien. Vous êtes toujours sur Spectaculaire et sur Radio Canu avec notre invitée, Geneviève Garcia Gallo.
Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen. De l'air que cache ton immensité, que cache ton immensité. Bête de tôle, mais lesquelles qui crie quand siffle le nickel au ciel. C'est drôle non plus de densité, c'est drôle non plus de densité. Boing, boing. Tes mouvements lançons de majesté. Boeing, Boeing, Boeing. Est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu manges.
d'azur, aux arbres pour passer l'ennui. Tant de têtes de ténues et dures, j'y meurs, ce fantôme peuple ta cité. Dans le jardin suspendu aux heures, du jour ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité, notre monstre électricité. Bohémie, Bohémie, et tes mouvements lancent de majesté. Bohémie, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Paris, et tes mouvements sont de majesté. Paris, 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 est-ce la faute de tes passagers à l'Ijaz? Si tu penses à gauche, enfin comme un vieil éléphant, à gauche à l'aise, enfin.
La programmation musicale aujourd'hui, ce n'est pas Gérald comme très souvent, c'est Geneviève Garcia-Gallo, notre invitée. Programmation musicale qui nous a permis d'écouter en début d'émission le groupe Sago, que je ne connaissais pas du tout, et là, à l'instant, Feu Chatterton, que je connais un peu. C'est bon, ça y est, ils sont passés à Lyon, je crois que c'est un peu trop tard. Moi, je souhaitais les recevoir, c'était à la fin juin. Ils sont passés Nuit de Fourvière, et je crois qu'ils passaient un mercredi, j'avais proposé à l'attaché de presse de les recevoir dans l'après-midi, mais non, il me semble qu'il y avait les balances, je ne sais quoi, et voilà, c'était difficile. Donc, à l'instant, nous avons écouté le titre Boeing, donc que nous devons à Geneviève. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant plus précisément parler de cette exposition en déshérence. Je me suis trompé pour le vernissage. Auditeurs, si vous souhaitez vous y rendre ce vendredi 4 novembre, vous pouvez y aller à 18h. Ça, c'est très bien, c'est le début. Mais à 20h, vous ne serez pas mis dehors. Vous pouvez rester jusqu'à 22h. Ça fait une large amplitude horaire pour aller voir ces différentes toiles qui sont toutes on le met au pluriel comme ça. Ce sont toutes, Gérald, des huiles.
Oui, alors les huiles. Il y aura des huiles d'ailleurs au vernissage, peut-être aussi. En tout cas, il y aura des peintures à l'huile d'une cinquantaine, nous disait Geneviève.
À la galerie Jean-Louis
Format.
Des huiles sur toile et des huiles sur bois.
Qui ont un thème, on va dire. Forcément, il y a un titre. Quand on fait des expositions, souvent, les artistes donnent un thème qui.
Il y a une harmonie.
Oui, une harmonie, un ensemble, une inspiration commune. C'est un travail.
Toutes les toiles.
Qui a commencé il y a 2 ans.
J'ai commencé ce travail en janvier 2015, donc ça fait un an et demi passé.
Donc ça s'appelle En déshérence, peinture récente en sous-titre, du mercredi 2 au samedi 26 novembre. Vous avez quasiment tout le mois pour y aller. Ouvert du mardi au samedi de 14h à 20h, rue Vaubecourt, au 3, galerie Jean-Louis Mandon. Alors le carton est très beau, ce que je venais de lire là. On l'a mis sur le blog d'ailleurs. Très troublant, très mystérieux. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques indications? Ça se lit comme un poème aussi, un tableau. Et puis ça a du sens, hein, on disait. Comment c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, on pourrait dire ? Qu'est-ce qu'on va dire sur cette image ?
En fait,
que les auditeurs ne voient pas, mais verront.
J'ai hésité entre lieu déserté et en déshérence. Mmh. Pour moi, ça voulait dire à peu près la même chose au niveau de l'abandon. Et je trouvais simplement que c'était un peu plus poétique en déshérence.
Même si c'est un thème de droit de 1285. J'ai regardé là l'Alain Ray. Absence d'héritier pour recueillir une succession qui est en conséquence dévolue à l'État. CF succession en déshérence. Mais évidemment, c'est au et sens là, figuré, c'est... tomber en déshérence, voilà. À l'abandon. Donc.
C'est à l'abandon.
Voilà. Et est-ce que vous êtes inspiré d'un endroit que vous avez vu, que vous avez visité, et que c'est ça qui vous a donné... Enfin, parce qu'il y a certains...
C'est un lieu, on peut décrire l'image rapidement, peut-être.
Oui.
Bon, Geneviève, ou alors un regard extérieur, ça peut être intéressant.
En fait, j'ai choisi, c'était pas évident de choisir la peinture pour le carton d'invitation, parce que j'hésitais entre plusieurs toiles. Mmh. Et puis celle-ci, je trouvais qu'elle faisait un peu le lien avec la nature. Parce que c'est une pièce avec des murs qui s'effritent, la tonalité dans les roses, avec, j'ai travaillé les clairs obscurs.
Tout en glacis.
Tout est en glacis.
Très beau.
Et il y a une fenêtre, en fait, qui s'ouvre sur la nature. Il y a des petites collines au fond qu'on distingue très, très légèrement, avec une brume. Et puis cette nature qui passe à travers la fenêtre et qui reprend un petit peu ses droits. Donc, comme j'avais fait deux expositions, même plusieurs expositions sur la nature, et ma dernière exposition, c'était l'appel de la forêt, donc pour moi, c'était un petit lien à la végétation, parce que, voilà, dans cette expo, il y a des pièces aussi sans végétation, il y a beaucoup d'objets
brouillés,
et je trouvais qu'elle faisait vraiment le lien. Et...
Voilà. Il y a aussi deux objets, hein, parce que le spectateur au centre, quasiment, il y a une sorte de rocking chair abandonnée. Enfin, on dirait une maison abandonnée. Le sol, on s'attend à voir un parquet, c'est un sol
rempli
d'herbes, de paille.
De paille, de morceaux de bois, d'herbes.
Il y a un fragment de faute de canapé à gauche et une cheminée à droite.
Oui, il y a la trace de l'humain qui habitait là et puis qui est parti. Et on ne sait pas pourquoi il est parti.
Et le titre, c'est Dialogue interrompu.
Et le titre de ce tableau, oui, c'est un tableau qui fait un mètre par un mètre, c'est une huile sur toile, et le titre c'est Dialogue interrompu, parce qu'il y a une petite chaise à bascule, ça appartenait peut-être à un enfant, et il y a un fauteuil, et on peut s'imaginer la vie en fait qu'il y avait avant. Voilà, donc pour cette exposition, j'ai mis. Ça faisait longtemps en fait que j'avais pensé à cette exposition et j'ai mis 40 ans pour la faire, en passant par plein d'autres thématiques. Et voilà, c'est vraiment en relation avec mon enfance où, quand je suis partie du Maroc, on a tout laissé. Et il m'arrive encore de rêver 40 ans plus tard de pièces où j'avais habité, de poupées que j'ai laissées. Et voilà. En fait, cette expo est venue de là. Et puis je me suis vraiment. J'étais prête pour faire ça. Et avec la. Actualité, avec tout ce qui se passe actuellement, avec tous ces migrants qui viennent de pays différents, il y en a qui partent pour des causes économiques, pour des causes climatiques, pour des causes, hélas, guerrières, de guerre, et voilà. Donc, consciemment ou inconsciemment, il y a ce rapprochement aussi où des gens qui partent pour sauver leur vie et...
Est-ce que c'est une sorte de thérapie pour vous de faire cette... Parce que vu que vous parlez de... Enfin, vu qu'il y a pas mal de...
Thérapie, exorcisme, catharsis, je dirais plutôt.
Un soin par la peinture. Non, le terme est peut-être un peu...
Un peu fort,
oui,
ou médical,
mais bon,
une idée de soulagement.
Quand on s'expose, vous en parliez, peint, soit on peint sans donner vraiment de sens à ce qu'on fait. Hein,
mais c'est rare.
Mais c'est rare, ouais.
Comment c'est pas la peine de peindre? Enfin, de prétendre créer des œuvres.
Parce qu'il y a forcément rien à dire. De soi quand on peint.
Ah oui, mais voilà, absolument. C'est pour ça que je parlais de mon enfance et de ce départ un peu précipité où on a absolument tout laissé. Donc voilà, alors après, évidemment, c'est pas les lieux de mon enfance,
c'est revisité,
absolument.
Ouais. Mais il y a forcément des objets qui sont en rapproche, forcément, vu qu'on voit pas mal de tasses, on voit des... Je pense que
oui, mais bon, ça, c'est universel, hein, les vieilles truelles.
Tout objet porte sa vie, quoi.
En fait, moi, c'est toujours mes balades aussi dans la nature où je trouve des vieux bidons tout rouillés et je trouve ça magnifique. Je me dis, ah, mais cette rouille, j'ai envie de la peindre ou des spatules ou des objets et hop, je les ramène dans mon atelier. Et cet été, tous les matins, enfin, la veille, je partais. En exploration et puis le matin je ramenais les objets dans mon atelier et puis je mettais un objet devant moi et je me faisais très très plaisir à le peindre et à l'interpréter, à donner de l'âme aussi à cet objet.
Je me posais cette question, vous êtes en train d'y répondre plus ou moins, Geneviève. Peignez-vous sur avec modèle ou bien de tête, c'est un peu un
ah
peu
non,
des
non,
deux,
non,
c'est ça.
Moi,
c'est...
je peins
sur motif, comme on dit,
sur motif,
à l'ancienne.
C'est-à-dire à l'ancienne et aussi d'après photo. Ce que je disais tout à l'heure, c'est dans mes balades, quand je vois des lieux qui m'intéressent, qui m'interpellent, qui m'interrogent, je les prends en photo. Et quand je retourne dans mon atelier, j'ai une petite trace sur mon téléphone portable. C'est pas bien grand, mais et après j'interprète. Alors, soit je pars de la photo, de lieux que j'ai découverts, ou alors d'objets que j'ai ramassés et que je mets devant moi, là.
C'est une banque de données dans laquelle voilà. Vous puisez, que vous reconstruisez, que vous condensez,
absolument.
Déconstruisez, reconstruisez, comme dans le rêve.
Et ça vous arrive jamais d'imaginer un objet, enfin, de rêver à quelque chose, et puis de vous dire, bon, ça, je vais le coucher sur peinture le lendemain, ou... Non, jamais. Ça vous est jamais arrivé?
Non, pas vraiment, pas non, c'est pas d'après un rêve ou. Mais c'est vrai qu'on prépare une expo, on est tout le temps dedans, hein, même dans les balades, c'est de l'observation. J'essaye de trouver ce qui peut me enrichir ma palette, ce qui, au niveau des couleurs, ce qui peut au niveau des formes, des voilà, et puis il y avait, je me baladais, et puis dans le Puy-de-Dôme, et avec ma fille, qui me dit, tiens, mais tu traites justement les maisons abandonnées, et elle m'a amenée dans un lieu incroyable, incroyable, et on est rentré par une petite fenêtre, et là, c'était magique, quoi, c'était toute ma doc était là, et donc, j'étais très très émue de voir ces drapés, donc voilà, si vous venez voir mon expo, j'ai travaillé les lits des fées, les drapés, les objets, les chaises, et voilà.
La belle maison. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de peindre même des objets qui vous paraissaient vraiment insolites, ou vraiment vous avez dit, enfin ça me paraît pour le commun des mortels vraiment très 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 spécial, mais moi je vais le peindre parce que moi ça me parle.
Bien sûr, complètement.
Ah oui, j'ai été dans cette pièce. Je reviens à ce carton.
Non, c'est encore autre chose là.
C'est une recomposition. Une combinaison
voilà,
de différentes
exactement.
Sources de
ouais.
Il y a peut-être une question là à travers ce que vous demande Isa. Est-ce que vous pensez à vos spectateurs, enfin je ne sais pas comment nommer cette idée, cette chose quand vous peignez, puis ensuite j'avais aussi une autre question à vous demander, enfin je l'avais promis, j'avais dit qu'on parlerait technique, format, vous avez évoqué tout à l'heure le mot de palette, très bien, mais quelles sont les couleurs, enfin ou quels sont les matériaux que vous avez, mais enfin voilà, est-ce que vous avez un souci de ce regard extérieur qui sera posé sur votre toile, ou alors non, le disait Isa, thérapie, enfin disons soin, vous non, êtes seul, vous peignez, enfin voilà.
Je choisis, je réfléchis longtemps à une thématique, parce que comme il faut, en général je travaille à peu près 2 ans sur un même thème, donc il faut tenir aussi, il faut pas se lasser au bout d'une dizaine de toiles. Voilà, là j'ai fait, je sais pas, à peu près 80 toiles, et puis j'en présente une cinquantaine à la galerie Jean-Louis Mandon. Donc il y a des tout petits formats de 20 par 20. Les formats varient vraiment. Il y a des toiles de 100 par 100.
Oui, c'est ça, sur le carton, c'est aussi que sont voilà, 100 par 100. Oui.
Il y a des toiles ovales.
Et alors les.
En fait, pour être montré et vu, autrement, il n'y aurait pas d'exposition.
Il y a des triptyques aussi, je oui, pense quand même. Au final, je trouve que c'est intéressant quand on travaille par diptyque ou triptyque. Pour l'accrochage, déjà, il y a. Comment dire ? Il y a mon époux qui est peintre aussi, qui est à deux, on s'est régalé à faire l'accrochage, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on a les mêmes formats par moment, avec des ruptures. Par exemple, j'ai un triptyque qui fait 72 par 65, un triptyque de chaise. Après, j'ai fait une rupture avec un grand carré de 90 par 90, et après j'ai mis deux autres toiles de 92 par 65, un diptyque, et ça donne un rythme.
Mais le format, c'est vous qui choisissez, ou il vous est plus ou moins dicté parce que ce dont vous disposez chez vous, enfin ça fonctionne comment? Enfin, moi, enfin vraiment là, ce que j'aimerais bien qu'on parle vraiment, enfin je nomme ça technique, voilà, composition, structuration,
bah là déjà
opération,
voilà, j'ai déjà parlé du rythme dans une galerie. J'aime bien qu'il y ait un rythme. Donc c'est pour ça que je fais pas mal de diptyques. Et par exemple, j'ai fait toute une série d'objets, c'est des 33 par 21, il y en a une dizaine. Et bon, c'est moi qui ai choisi le format.
Oui, c'est un format
imposé par l'objet, c'est le choix du point de vue.
Non, pas vraiment imposé par l'objet, non. C'est moi qui avais choisi ce format-là. Et là, ce sont des peintures sur bois.
Et alors avec
quel, plus à l'ancienne,
quel type de pinceau de
chevalet?
Est-ce qu'il y a un peu de couteau là? Non, pas de couteau, non. Ça de.
Oh, je mélange tellement de choses. Moi, je travaille pas énormément en épaisseur.
Oui, plutôt en subtilité, en glacis, comme on dit.
En glacis,
médium transparence, etc.
Voilà.
Monter pendant des semaines, laisser sécher.
Voilà. Etc. Donc, je peins souvent 2-3 toiles en même temps, justement pour le temps de séchage.
C'est ce qui fait la beauté de ce mur rose là, avec des taches.
Ouais, je reviens.
On voit tous les paysages, comme disait.
Au dernier moment, justement, en parlant de ce tableau, il y a des ombres de chaque côté, et puis justement, bah, ça met en valeur la lumière, hein, c'est le clair-obscur.
Et vous mettez à peu près combien de temps pour peindre une.
Bon, c'est difficile à dire parce que je peins plusieurs toiles en même temps. Comme il y a des temps de séchage.
Ça vous arrive jamais de vous concentrer sur une seule vraiment et de vous dire, bon, là, je vais faire que celle-là et.
Oh, ça m'est arrivé quand j'ai un peu plus de temps. Ça m'est arrivé, oui, bien sûr, de faire qu'une toile aussi.
Donc oui, vous parlez de rythme pour l'accrochage. D'ailleurs, oui, il me semble que vous l'avez indiqué, vous êtes assez satisfaite de cet accrochage qui a déjà eu lieu. Là, l'expo ouvre 14h aujourd'hui, c'est ça?
Donc, oui, ça y est, ça a commencé.
Et vous l'avez réalisé ces derniers jours, et oui, c'est assez.
Oui, on a fait l'accrochage avec mon époux samedi, avec le galériste. Mais
50 toiles, c'est pas une
affaire. Voilà, justement, il fallait. Moi, j'avais réfléchi un petit peu à l'accrochage.
Une scénographie, puis, c'est ça un peu?
Oui, complètement.
Ouais, la galerie n'est pas immense en plus.
Ouais. Et ça passe bien parce que c'est important de laisser des respirations aussi.
Il y a une belle vitrine, on verra ça de la vitrine peut-être.
C'est un autre tableau. Dans la vitrine, ouais, c'est une toile aussi où il y a des fauteuils, où il y a la végétation qui reprend ses droits, mais c'est une toile aussi de 1 mètre par 1 mètre.
On parlait de technique avant. Est-ce que ça vous arrive d'être uniquement guidé par la technique ou il y a toujours une part de feeling, d'improvisation?
Ah bah oui, c'est un tout. Hein. La technique, ça fait à peu près 40 ans que je peins, donc la technique. Bon, je la maîtrise, c'est bon, ce qui est un peu normal. Hein, comme,
Mais la technique ne se fait pas tout. C'est ça,
voilà.
On pourrait dire la limite du réalisme.
Il faut qu'il y ait quand même du sens, de l'âme, que ça dégage une émotion.
Et trouve.
Enfin, voilà.
D'ailleurs, elle est riche parce qu'elle est ambiguë. Hein.
Et ça vous arrive de faire des toiles sur commande, par exemple quelqu'un vient vous dire. J'aimerais...
Ça m'est arrivé il y a longtemps, des commandes de portraits, absolument, ouais. Et ça, je fais plus ça depuis un moment. J'aime pas tellement les commandes.
Qu'est-ce que vous aimez dans...
C'est un peu restrictif. Parce que les gens ont une idée en tête.
Pour aller avec le canapé en dessous, la couleur, le format.
Voilà. Donc on est moins libre. Alors que là, je suis complètement libre de choisir mes couleurs, mon format.
Ça vous est jamais arrivé d'avoir une commande de quelqu'un qui vous a dit faites comme vous voulez.
Ah bah oui. Oui, oui.
Fausse commande. Libre. Ça, c'est une bonne commande.
Mais à la limite, je préfère en fait que la personne vienne et choisisse une toile qui est faite et qui existe déjà. Mais ça m'est arrivé aussi. Absolument.
Nous sommes en train d'assaillir Geneviève Garcia-Gallo de questions. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Gérald Isa, là, bam, on l'a mis très de questions.
Il est déjà 40.
Laissons-la respirer un peu grâce à Fantasio. Nous allons écouter 7 Days. Alors, c'est 7 jours. Je pense que ça va durer quoi? Une petite minute, j'espère, ou deux minutes, parce qu'il reste encore des questions. On l'a évoqué ou pas, Gérald? Cet hyper-réalisme. Moi, il me semble, je vois du caillot parfois.
Il y a de la poésie dans le travail de Geneviève. S'il y avait du réalisme, ce serait pas intéressant.
Puis, les couleurs, il faut qu'on en parle davantage de ces couleurs. Vous parlez de palettes. Il faut qu'on les nomme froide, chaude ou je ne sais quoi encore. Et puis, je suis convaincu que Isa.
Des roses et des verts, un peu
Isa, très vieilli. Isa a encore beaucoup de questions. Donc, tout d'abord, dans un premier temps.
Verte est difficile à utiliser, à maîtriser dans toute l'histoire de la peinture. Regardez, elle est assez rare en fait. C'est ça qui fait l'intérêt de ces tableaux aussi.
C'est toujours grâce à Geneviève que nous avons une programmation musicale riche aujourd'hui. Écoutons donc de Fantasio, extrait de l'album The Sweet Little Brother Jackson Show. Qu'est-ce que c'est que cet album de Fantasio? Je ne connais pas du tout. Écoutons le premier titre, 7 Days, et puis ensuite on reprend sur... Tu parles de lavis, non? Quels sont les mots que tu emploies? Non, délaver.
Non, lavis.
Non, délaver, je me lave absolument tout.
Délaver, peut-être des peintures, des couleurs. Parfois délavées, mais parfois très vives, il y a une belle lumière. On reparlera du clair-obscur peut-être.
7 Days, il nous reste encore un quart d'heure à passer.
La poésie de la lumière et de la fenêtre. La fenêtre, c'est la métaphore de la peinture. On pourrait parler de la fenêtre pendant 3 heures dans la peinture.
Geneviève,
on n'aura pas le temps.
Non.
Il reste un quart d'heure.
Voilà, c'est ça.
After the big storm, I thought I was dead, but I was in Rome, dreaming of my XXX lady. XX lady's coming back to me, giving me the key for a new therapy, made of love, bars and kisses and ecstasy.
XX lady, oh my lady's flame. Now I'm your lady, they can know my name. try again. Oh, X-X-Lady, where my lady's flame. No new lady, they can't know my name. 7 days sleeping, I will try again.
Si nous souhaitons écouter Rodolphe Burger en fin d'émission, il va falloir donc poser de bonnes questions maintenant, Gérald, à notre invitée Geneviève Garcia-Gallo, qui expose, alors même double exposition. Elle commence aujourd'hui, mercredi 2 novembre, l'exposition En déshérence, jusqu'au samedi 26. Et j'entendais aussi, Geneviève, une autre exposition, Salon du
Sud-Est. Oui, au Salon du Sud-Est, sur les quais de Bondy.
Palais de Bondy.
Et le vernissage est samedi 5 à partir, je ne sais pas, soit c'est 14h ou 18h.
Deux vernissages, vendredi 4 et samedi 5.
Là, j'ai mis 6 toiles.
Et alors, le catalogue, donc, en propose.
Et on est 70 peintres.
Ah oui.
On est nombreux, là.
Oui. D'accord, là, c'est autre chose.
Variété.
Et le catalogue en propose quelques-unes de ces toiles qui sont à ce Salon du Sud-Est. Ben, c'est très bien. Toi, Gérald, tu souhaitais éventuellement le commenter un peu, ce catalogue?
Bon, on peut dire que.
C'est assez fidèle.
Vous pourrez le procurer à la galerie pour la somme modique de 10 euros. Il est très beau. Il est des belles reproductions de tableaux et avec des textes très intéressants. On va peut-être lire quelques extraits. Non?
Oui, et après.
Des extraits,
oui.
Après, des auteurs.
On revient sur les couleurs, hein. Donc, tu trouves. Ouais,
pas trop. Sur
harmonie,
les couleurs,
harmonie rose.
Il faudrait parler du sens aussi. Enfin, je sais pas, parce que c'est des lieux, il y a un côté très présent et puis très absent. Je trouve qu'il y a un côté vivant,
un abandon
et un côté
positif.
Mort aussi, un peu funèbre. Ça fait des lieux un peu fantomatiques, tout ça.
Ah oui, complètement.
Donc il y a de la métaphysique là-dedans. J'aimerais bien citer un petit poème de Pierre Segers que j'ai trouvé dans la Poétique de l'espace avec l'autorisation de Geneviève.
Ah oui.
Donc de Bachelard. Un petit extrait dans le chapitre Maison et univers de Pierre Segers. Une maison où je vais seul en appelant un nom que le silence et les murs me renvoient. Une étrange maison qui se tient dans ma voix et qu'habite le vent. Et je trouve que ça résume pas mal l'ambiance.
C'est très beau.
De ces lieux à la fois habités, désertés, abandonnés, présents et vivants. Voilà, toute la
spectrale,
métaphysique, l'oxymore pictural dont parle Didier, peut-être.
Voilà,
j'ai une toile sous les yeux que je cherche, que je trouve sur le site, la 57e, je crois. C'est un corps allongé sur un lit, mais en fait, non, il n'y a pas vraiment de corps, plutôt seulement la robe, puisqu'on n'aperçoit pas de membres, il n'y a pas de bras, ni de tête, ni de pieds qui sortent de cette robe. Et cette robe se trouve sur un lit, et le lit a l'air d'être incrusté dans le mur du fond. C'est un peu étrange. Moi, ça me fait penser à une sorte de. Les collages de Ernest Pignon Ernest. C'est assez enfin, je sais pas comment nommer ça, j'ai le sentiment de voir effectivement quelque chose qui est présent absent, quoi.
C'est enfin, ça. Voilà, en plus, c'est un fantôme boule, et puis le drapé a gardé la silhouette un peu anthropomorphe, donc c'est un peu troublant effectivement.
Mais c'est une robe, non,
très fantomatique.
Oui, spectral, c'est bien tous ces termes-là. Les textes, Geneviève, vous en avez sous les yeux, parce que les textes écrits par notamment Joël Couve, Marie Rabatel, vous disiez, ainsi que Numa Drose, ces textes, il y a une poésie dedans. Hein. J'avoue ne pas avoir à chaque fois tout saisi, mais il y a un truc, enfin, du moins, il y a des choses qui marchent, qui fonctionnent, ça me semble bien. Un exemple, peut-être ?
Bon, alors je vais lire un texte de Numa Drose, Les outils de la mémoire. Dans la riche texture de ses dernières œuvres, Geneviève Garcia-Gallo nous parle d'un monde perdu, nous parle de souvenirs futurs. Elle nous plonge dans l'oxymore pictural d'un univers d'objets, d'un quotidien banal qui sont en passe de devenir des traces archéologiques. Le temps s'est brutalement figé à la suite de quel cataclysme ? La sourde présence d'un drame affleure l'humain. L'humain y est totalement présent et à la fois éminemment absent, rayé de son monde par un souffle d'apocalypse où lentement la nature tente de reprendre ses droits. Elle s'immisce par les fenêtres évidées. Dans des pièces presque vides, stagnent les bruits lointains d'une présence humaine passée. Sièges de toutes sortes, pauvres objets d'un usage amical et journaliers abandonnés à leur devenir néant et déjà gagnés par une rouille mortifère. Le fond pictural et la forme d'une précision quasi photographique s'unissent dans une surface peinte où le temps fictif et le volume illusoire se chevauchent dans une matérialité immatérielle. Les images créent chez le regardeur un mouvement duel de séduction et de répulsion, comme un mauvais souvenir dans une enfance heureuse, ou l'inverse. Les deux pôles contradictoires d'une souvenance qu'on a cherché à oublier à tout prix et qui ressurgit pleine de violence et d'angoisse au détour d'une phrase sur le divan d'un analyste. Le passé, comme un léviathan obscur, montre son dos d'écailles noircies dans l'atmosphère limpide d'un soir d'été où le soleil se couche sur une mer parfaite. Sous la flatterie de couleurs subtiles et chatoyantes, une bête sombre est tapie comme une mémoire oubliée. D'un pinceau précis et cruel, Geneviève Garcia-Gallo remue avec patience le potage consistant dans le chaudron magique de ses souvenirs. Et la recette est étonnante et belle.
C'est le cake d'amour, ça? On n'est pas loin du cake d'amour. C'est un cake un peu bizarre, qui a un drôle de goût.
Alors, ce qui était bizarre, auditeur, si vous avez bien eu l'oreille attentive au texte de Geneviève Garcia-Gallo, ce qu'elle vient de lire, peut-être auriez-vous aussi perçu quelques notes. C'est une promesse de Gérald, un générique à venir. Alors, j'ai mis quelques notes, c'était un peu grinçant, ça pouvait correspondre.
Mais oui, c'est pour ça que j'ai pensé à ça.
Ça pouvait correspondre. Alors, auditeur,
le texte était écrit par
éventuellement une
de Rose.
Une semaine prochaine.
Donc l'époux en question.
Moi j'ai beaucoup aimé les autres textes écrits aussi par Joël Couve avec des termes, des alliances de mots qui étaient vraiment, vraiment
saisissants. C'est vrai qu'il faudra avoir un peu plus de temps. Le texte de Joël Couve est superbe et le texte de Marie Rabatel est grandiose aussi.
Il y a une citation dans la dernière phrase. En effet, le retournement de la question de l'espace, des lieux en déshérence, donc titre de l'exposition, et le passage des objets oubliés d'un abandon négatif à un abandon positif, scelle la tension poignante qui nous place véritablement au cœur de l'œuvre de Geneviève Garcia-Gallo. Oui, une tension poignante, un abandon positif, ce sont des termes que je trouve très...
C'est le règne de l'oxymore.
Très surprenant. Oui,
cette peinture respire l'oxymore.
Pictural, le terme était employé également dans un autre texte, je crois, peut-être celui de Marie Rabatel. Non, enfin vraiment, le lien se trouve déjà sur le blog, le site Geneviève Garcia-Gallo, tout accroché, pas de tiret, pas d'accent, rien.com. Vous aurez donc accès à différentes choses, une petite biographie, donc que j'ai utilisé tout à l'heure, cette naissance marocaine, il n'est pas précisé cette ville de Rabat, donc c'est très bien, on a pu en parler. Et puis il y a ensuite les différentes expositions qui ont toutes eu lieu plus ou moins en région. J'ai aperçu un Nantes quelque part.
L'an dernier j'ai fait une exposition à Koblenz et à Fribourg en Allemagne. Voilà, il y a deux ans, c'était à Dieulfi, Montpellier. Enfin, bon, voilà, il y a toutes mes expositions sur mon site.
Et la suite, hein, Gérald, à chaque fois, on passe à la trappe cette dernière question à poser à notre invité. À venir, est-ce qu'il y a déjà une thématique sur laquelle vous êtes en train de travailler ces jours-ci pour une exposition donc à venir? A priori, hein, si on a bien retenu Isa, Gérald, deux ans de maturation, là, de préparation, de composition.
Là, ça a été un tel délice, un tel régal pour moi de peindre en fait pendant un an et demi et je sens que j'ai pas fini quoi. J'ai encore plein d'objets à peindre, j'ai plein de choses encore à faire, à peindre. Pour moi, c'est pas fini.
En déshérence 2, alors. Un retour.
Le monde à l'abandon, le monde des objets.
Objets inanimés, avez-vous une âme? C'est ça? C'est le vers de Mallarmé.
Et alors, c'est qui a dit ça?
Je crois que c'est un vers de Mallarmé, il me semble.
C'est possible.
C'est possible. Aurions-nous fait le tour?
Bah, l'abandonner. Moi, j'ai envie de, quand même, à propos d'Oxymore, de citer, d'inviter les auditeurs et auditrices à lire ce magnifique journal de deuil de Roland Barthes. Qui, à propos du deuil, page 172, dit cette incompréhensible contradiction du souvenir et du néant. Et ben, je trouve que ça parle aussi un peu de la peinture de Geneviève Garcia-Gallo.
Oui, et puis du désastre, j'essaie de faire ressurgir le beau, en fait la beauté. C'est pour ça qu'il y a plein de paradoxes.
Donc on est dans le sublime.
Non.
Et la sublimation.
Oui, c'est les mots nous manquent. De toute façon, les minutes nous manquent également. Est-ce un lien que je cherche à faire? Peut-être la boîte, une pièce de Jean-Pierre Siméon a commencé. Non, elle commence ce mercredi 2 novembre, c'est jusqu'au 10, c'est-à-dire la semaine prochaine, ce sera jusqu'à jeudi prochain. Jean-Pierre Siméon, que nous avions eu par téléphone, c'était
je crois, trois émissions.
Voilà, c'était pour la reprise de cette saison. Non, c'était juste après la reprise.
Ouais, c'était juste après.
Donc Jean-Pierre Siméon, qui était responsable des textes électres et et Antigone, et bien cette fois-ci à nouveau sévi pour un texte, La Boîte, qui est assez particulier. Et là j'ai le livre sous les yeux, le livre est assez stupéfiant, il y a une sorte de retour à le futur dans le passé. Il est indiqué que le texte a été créé le 2 novembre 2016 au TNP à Villeurbanne, il a été repris ensuite du 9 au 24 décembre 2016 au théâtre Les Déchargeurs à Paris. C'est indiqué au passé, alors que le 2 novembre, c'est aujourd'hui. Et ce bouquin, il a été édité, ce livre a été publié, je crois que
c'est... peut-être une coquille.
Dépôt légal, janvier 2016. Non, pas du tout. La pièce, le livre, en fait, a existé avant la pièce. Ouais. Donc, si vous souhaitez emprunter le bouquin, ben, auditeur, c'est moi qui l'ai. Je l'ai trouvé à la librairie, à la bibliothèque de la Pardieu. Mais si vous souhaitez voir la pièce, c'est à 20h30 au TNP, dans la petite salle de Villeurbanne. Il y a aussi beaucoup de musique à venir à l'auditorium ainsi qu'à l'opéra, mais tout ça, je l'ai annoncé. Il y a tout un tas de trucs.
Alors, on va peut-être revenir aux arts plastiques, puisque donc Geneviève a parlé du vernissage demain soir à l'œil, écoute sur les quais de Saône de l'exposition de Luc Espalergue et sa maman. Donc ça va être intéressant. Luc Espalergue qui fait une peinture très intéressante aussi dans un registre et un style complètement différent de celui de Geneviève. On est très loin du réalisme quasi photographique, on est plus proche d'une forme d'art singulier, d'art un peu cobra, un peu tripal et brut, peut-être un peu même. Donc allez-y, ça changera aussi.
C'est à l'œil écoute.
À l'œil écoute. Très belle galerie, à moitié enterrée.
Sur le quai de Bondy.
Quai de Bondy. Et après, il y aura donc le vernissage du Sud-Est aussi.
Voilà.
Vendredi.
Samedi.
Samedi cette fois. Alors, samedi, jeudi, vendredi, 5. Samedi. Si vous n'avez rien dans votre frigo, non, je rigole évidemment, mais allez voir de la bonne peinture, parce que la peinture est toujours vivante et le restera. Pour finir, il faudrait parler de notre générique. J'aimerais dire à nos auditeurs, depuis 3 ans, on a le même générique. Et il y a un petit problème, parce qu'un jour, il m'est arrivé d'entendre le même générique que Christophe avait choisi de Massive Attack, qui était un excellent générique. Il était tellement bien qu'en fait, une chaîne concurrente très écoutée nous l'a piqué, puisque le Salon Noir, l'archéologie sur France, dont je ne donnerai pas le mot, a repris et est devenu Carbone 14. Et ils ont piqué exactement le même morceau. Donc il va peut-être falloir qu'on change de générique. Qu'en penses-tu, Christophe? On pourrait l'écouter et faire un test auprès des auditeurs.
Nous le ferons. Non, j'ai sorti tous les CD. Là, j'ai mis du Rodolphe Burger qu'on va écouter comme ça. On va écouter une seconde. Rodolphe Burger avance. Extrait de l'album No Sport.
On écoutera générique la semaine prochaine.
Et puis on écoutera générique la semaine prochaine.
Pour commencer l'émission. Si vous ne reconnaissez pas, c'est pas grave.
Quoique Rodolphe Burger, là, je me dis, c'est en fin d'émission, là, ça m'a l'air d'être un peu. Non, on va plutôt lancer notre Massive Attack.
Ou le nouveau générique.
Non. Normalement, le générique qu'on devrait écouter tous maintenant, ça devrait être le Gel Neuilly Blues, hein, du Blues des Canuts, mais Pascal n'est pas encore là. Ah, si, me semble-t-il, il arrive. Très bien, donc nous lâchons l'antenne, nous lui laissons la place.